et nous lirons jusqu'au verset 21. Je pense que le texte va s'afficher. Merci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Voilà. Et nous retiendrons particulièrement ce verset 20, dans lequel il est dit, « Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Il y a 2 jours, a été célébré l'anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. En effet, le 11 novembre 1918, eh bien, les armes se sont tues sur tous les fronts. Mais si les armes se sont tues, ça n'est pas pour autant que ces deux peuples, français et allemand, allemand et français, ont été réconciliés. La preuve, c'est que 20 ans plus tard, on a remis ça. Hein? Et suite aux souffrances subies de part et d'autre, d'ailleurs, eh bien, la haine était plus vive que jamais. Et elle a perduré. Je me souviens de gens qui maintenant ne sont plus de ce monde, mais qui avaient perdu un être cher au cours de cette guerre de 14-18 et qui avaient ces relents d'animosité, d'amertume et de haine. Et on peut comprendre que d'où cela provient. Par contre, on raconte l'histoire d'une petite fille qui était mourante, atteinte d'une très très grave maladie. Et il se fait que les parents de cette petite fille étaient sur le point de divorcer, de se séparer. Et ils se sont retrouvés au chevet de leur enfant. Vous voyez le tableau, l'enfant allongé sur son lit, dans un triste état, moribonde, le père d'un côté du lit et l'autre de l'autre côté. Et cet enfant, eh bien, a eu un geste remarquable dans ses derniers moments, dans ses derniers instants. Elle a pris la main de son papa d'un côté, elle a pris la main de sa maman de l'autre et elle les a toutes les deux réunies sur sa poitrine. Elle a fait une œuvre de réconciliation pour que ce couple qui était eh bien, en état d'hostilité, on va le dire comme ça, puisse retrouver la paix. Et là, dans le texte qui nous occupe cet après-midi, c'est Dieu qui nous propose d'être réconciliés avec lui. C'est une nécessité. C'est une nécessité parce que même si nous n'en sommes pas toujours conscients, et nous n'en sommes pas souvent conscients, de par notre condition de pécheur, la Bible, la parole de Dieu, nous montre que, en fait, nous sommes en guerre contre Dieu, en guerre ouverte. Vous voyez ? L'Écriture dit que nous, les humains, nous sommes des enfants de colère. Nous sommes les fils et les filles aussi de la rébellion, et nous sommes ennemis de Dieu par nos œuvres et par nos pensées. Cette hostilité de la créature envers son créateur, elle a commencé il y a fort longtemps dans le jardin d'Éden. Souvenez-vous, lorsque nos premiers parents, Adam et Ève, n'est-ce pas, eh bien, ont cru au mensonge du diable. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais voici que le tentateur s'est approché Et il leur a suggéré, il les a fortement incités à ne pas tenir compte de l'ordre divin, en leur disant, mais non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Et il se fait que Adam et Ève, ou plutôt Ève d'abord et Adam ensuite, ont douté de l'amour de Dieu. Voyez, ils ont vu cette interdiction comme un état de privation, comme si Dieu voulait leur cacher quelque chose qui aurait été bénéfique. Ça s'appelle l'incrédulité. Et vous savez, l'incrédulité, finalement, c'est la racine de tous les autres péchés. C'est pourquoi la Bible dit que quand le Saint-Esprit vient, il vient pour nous convaincre de péché. Et Jésus dira de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Voilà. Le premier péché que les êtres humains peuvent commettre, ce n'est pas le vol, ce n'est pas le meurtre, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas la débauche. Non. Le premier péché, c'est de douter de Dieu, d'être incrédule et de ne pas lui accorder de ce fait la place qu'il mérite dans notre vie. Alors Adam et Ève, pour revenir à eux, ont pris la terrible responsabilité, ont commis la lourde faute, n'est-ce pas, et en toute connaissance de cause, bien qu'ayant été avertis des conséquences, s'ils, par malheur, ils venaient à transgresser l'ordre divin, ils ont pris cette terrible responsabilité, ils ont commis cette lourde faute et en toute connaissance de cause, délibérément, non pas par ignorance, mais délibérément, ils ont pris la décision de désobéir à Dieu. Et ils ont consommé du fruit défendu. Vous voyez, le péché, c'est ça. Le péché, c'est la désobéissance. Et vous avez remarqué comme l'être humain est naturellement porté vers la désobéissance. Hein? Ce n'est pas, avec un enfant, ce n'est pas le plus difficile que d'obtenir de sa part des câlins, des bisous, ou des « je t'aime papa », des « je t'aime maman ». Mais ce qui est plus difficile, vous l'avez noté, vous parents, c'est d'obtenir l'obéissance. Et c'est le propre de la nature humaine d'être, comment faut-il dire, viscéralement porté vers la désobéissance. Vers la désobéissance. Mais le péché, ce n'est pas quelque chose que les théologiens ont inventé, une notion purement religieuse. Non, l'Écriture dit que le péché, c'est la transgression ou la désobéissance à la loi divine. Et ce faisant, nous parlons toujours d'Adam et Ève, par leur faute personnelle, ils ont inoculé à tous leurs descendants, à toute la race humaine, vous, moi, les autres, les uns, n'est-ce pas, ce virus, ce germe, cette racine du péché. C'est dans l'Épître aux Romains qu'il nous est dit à ce propos quelque chose de fort important, dans le chapitre 5 et le verset 12. Voilà, je lis pour vous. C'est pourquoi, comme en par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Nous ne sommes pas responsables de la faute d'Adam, non, sûrement pas. Chacun rendra compte à Dieu, dit la Bible, pour lui-même. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en péchant, en désobéissant, c'est pas, eh bien, Adam nous a transmis cette inclinaison vers le mal. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est vrai qu'après Adam et Ève, nous avons tous suivi la même voie de révolte, de rébellion, de guerre envers Dieu, et nous en subissons encore aujourd'hui les conséquences fâcheuses. Et il y a pire que cela, non seulement actuellement, présentement, déjà sur la terre. C'est pour ça que ça va si mal dans l'humanité. Nous en subissons du péché les conséquences fâcheuses, mais si nous en restons là, eh bien nous en subirons les conséquences douloureuses et tragiques durant l'éternité tout entière. Quelle est la condition actuelle de l'être humain quand il est loin de Dieu? Quand il vit sans Dieu? Je ne dis pas sans religion. Parce qu'on peut avoir sa religion, mes amis, et en fait, eh bien, vivre sans Dieu, vivre loin de Dieu. Pendant quelques années, j'ai été aumônier dans une maison d'arrêt, et j'avais là des gens qui étaient, pour certains, des catholiques, pour d'autres, des protestants, pour d'autres des musulmans, et je vais vous le dire, j'en ai eu même qui étaient des évangéliques. Parce que ça n'est pas une religion, quelle qu'elle soit, qu'il nous faut. C'est une relation, n'est-ce pas, avec Dieu. Un contact évident, et c'est cela qui change notre vie. Ça n'est pas des rites, ça n'est pas des sacrements, ça n'est pas des genuflexions, des signes de croix, des simagrées de ce genre qu'il faut observer, qui vont changer la nature de ce que nous sommes, nous changer profondément intérieurement. C'est une relation, un contact avec Dieu. Et tant que nous sommes loin de Dieu, eh bien, la Bible dit que nous avons l'intelligence obscurcie à cause de l'ignorance qui est en nous. La Bible dit que nous sommes loin de Dieu, étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'endurcissement de notre cœur. La Bible dit que lorsque nous vivons loin de Dieu, c'est le diable qui a aveuglé notre intelligence spirituelle pour que nous ne voyions pas briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Je me suis souvent étonné de constater comme des gens brillants, intelligents, cérébralement, avaient parfois bien de mal à concevoir les choses de Dieu. Pourtant, je me dis, mais ça n'est pas compliqué que de comprendre cela. De comprendre que nous sommes des pécheurs, n'est-il pas vrai? De comprendre que Dieu nous aime. De comprendre que Jésus, par amour pour nous, a donné sa vie sur la croix. Ça n'est pas difficile, me semble-t-il, de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, de ton pardon, de ta grâce, de ton salut. Ça n'est pas difficile d'ouvrir son cœur et de recevoir la bénédiction de Dieu. Et pourtant, pour certains, ça semble si compliqué. Et il y en a qui entendent l'évangile pendant des années, des années, des années, sans jamais ouvrir leur cœur à la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable a aveuglé leur intelligence, dit la Bible, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Pourtant, l'évangile, c'est merveilleux. Alléluia. N'est-ce pas que c'est merveilleux? L'évangile, pour beaucoup d'entre nous, a changé, je dirais, a illuminé notre vie, n'est-ce pas? Il a transformé, bouleversé dans le bon sens le cours de notre existence. Et si je peux me permettre de faire cette application personnelle, je me dis, mais Seigneur, où serais-je aujourd'hui sans toi? Si tu n'étais pas intervenu, si tu n'étais pas venu dans ma vie au bon moment, si tu ne m'avais pas en quelque sorte tendu une main secourable, ah, quelle misère effroyable aurait été la mienne. Mais alors que j'étais dans la détresse la plus profonde, alors que j'étais loin de toi, que je ne te connaissais pas, que je ne savais rien de toi, tu es venu à ma rencontre et tu as tout changé. Alléluia. Oh, il y a bien des choses encore à changer, là, dans mon cœur. Mais ce qu'il a fait, il l'a fait, béni soit Dieu. Et je peux parler de la splendeur, de l'émerveillement que provoque l'évangile de Jésus-Christ. Ne vous laissez pas aveugler plus longtemps. L'être humain, lorsqu'il est loin de Dieu, il est spirituellement mort. Savez-vous qu'on peut être mort tout en étant vivant? Oui. On peut être vivant physiquement, physiologiquement, biologiquement, animalement, si vous permettez. Et on peut être mort dans nos péchés et dans nos offenses. Parce que qu'est-ce que la vraie vie? Jésus le dira dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Il dira, la vie, la vraie vie, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il ne s'agit pas seulement d'avoir entendu parler de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'avoir reçu une éducation dite chrétienne. Non, non, non. Il faut connaître Dieu, le connaître comme un père. Et il devient notre père lorsque notre cœur s'ouvre, lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur. Lorsque dans un élan de foi, nous lui disons, Seigneur, je ne veux pas vivre une minute de plus sans que tu ne sois réellement présent dans ma vie. Viens, sauve-moi, pardonne-moi, transforme-moi. Alors, de mort que nous étions spirituellement, nous venons à la vie, à la vraie vie, à celle de Dieu. Ah, je vous ai parlé de la condition actuelle, de l'être humain, intelligence obscurcie, vaine pensée, endurcissement de cœur, étranger à la vie de Dieu, spirituellement mort. Mais il y a pire que cela. Ce qui sera pire si nous restons dans cet état, c'est la condition future et éternelle de l'être humain loin de Dieu. La Bible dit, 2e épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9, « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » C'est l'enfer, ça. C'est être éternellement privé de la bienfaisante présence de Dieu. Être loin de Dieu, savoir qu'il y a quelque part un Dieu d'amour, de lumière, de bonté, et être plongé éternellement dans un gouffre sans fond et sans fin de ténèbres, de tourments intérieurs, de conscience accusatrice. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier des 66 livres de la Bible, n'est-ce pas ? Il est question de cet événement qui se produira dans l'avenir, lorsque la race humaine dans sa totalité sera convoquée au tribunal céleste, devant le trône de Dieu, et devant celui surtout qui est assis sur le trône. Et l'Écriture dit que ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie seront jetés dans l'étang ardent de feu, ce qui est la seconde mort. Non pas l'anéantissement, non pas la disparition absolue, mais la seconde mort, c'est un état de tourment intérieur incessant et intense. Mes amis, faites tout pour échapper à ce sort tragique. Faites tout pour éviter une fin si misérable. Et cet après-midi, si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, ouvrez vos cœurs à la grâce. Dieu vous aime et il veut vous sauver. Dieu vous chérit tendrement. Comme un père, eh bien, chérit son enfant, parce que l'Écriture dit que Dieu est riche en bonté. Alléluia. J'aime cette expression. Non seulement il est bon, immensément bon, mais l'Écriture dit qu'il est riche en bonté, il est amour. Regardez, c'est lui qui a été offensé par nos péchés, n'est-ce pas ? C'est lui qui a été offensé. Il n'est pour rien dans le conflit qui nous oppose à lui. C'est lui qui a été offensé par nos fautes, par nos faillites morales et spirituelles. Mais il nous offre la possibilité d'être réconciliés avec lui, d'être réconciliés avec lui. Il a fait le premier pas. Il a pris l'initiative. Il y a des gens qui disent « Dieu n'a jamais rien fait pour moi ». Ce n'est pas vrai. Dieu a fait pour vous, mes amis, ce qu'il y avait de tout à fait remarquable, de tout à fait extraordinaire, de tout à fait hors du commun. Jésus est venu sur la terre. Jésus n'était pas seulement un grand homme, un philosophe, un thaumaturge, c'est-à-dire un faiseur de miracles. Jésus était bien plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu. Il s'est dépouillé de sa gloire céleste. Il demeurait de toute éternité auprès du Père, là-haut, dans le ciel, dans la gloire, entouré des anges, des archanges, des séraphins, de toutes ces créatures angéliques qui lui rendaient honneur et gloire. Il a pris une nature semblable à la nôtre et il est venu du ciel sur la terre. Ça, c'est le pas que Dieu fait vers nous. Du ciel sur la terre. C'est un grand pas. Lorsque Neil Armstrong, en 1969, a posé son pied sur la lune, le premier pas qu'il a fait, il a fait ce commentaire suivant, il a dit « Un petit pas pour un homme, mais un grand pas pour l'humanité. » Ce à quoi l'un de ses collègues, dans une mission suivante, James Irving, qui était un chrétien, a dit « Jésus-Christ marchant sur la terre des hommes, c'est plus important que l'homme marchant sur la lune. » Il avait raison, cet homme, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à marcher sur cette terre. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous sauver. Comment les choses doivent-elles se passer pour que cette réconciliation dont je vous parle cet après-midi, dont la Bible nous parle, ait effectivement lieu ? Quelque chose a dû se produire pour que l'offenseur que je suis puisse être réconcilié avec l'offensé, c'est-à-dire avec Dieu. Que pour que nous puissions, lui et moi, moi et lui, être rapprochés, être réunis et non plus séparés, pour que Dieu ne soit plus le grand absent de ma vie, quelque chose a dû se produire. Non seulement Jésus est venu, mais il a donné sa vie. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'histoire de cette petite fille qui, mourante, a fait œuvre de réconciliation. Elle a pris la main de sa mère, elle a pris la main de son père, elle les a réunis. Elle les a réconciliés en quelque sorte au travers de sa mort. Mes amis, toute proportion gardée, Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a réconciliés avec le Père au travers de sa mort. Tout à l'heure, en introduction, nous avons lu ce texte de la deuxième aux Corinthiens où il est dit, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voyez, Dieu qui est saint et juste ne peut pas se permettre, sous peine de transgresser ses propres principes, de fermer les yeux sur le péché. Il y a des gens qui disent que nous irons tous au paradis, c'est pas vrai. Parce que si c'était comme ça, le Dieu en qui je crois ne serait pas Dieu. Dieu est immensément bon et plein d'amour, mais il est aussi absolument juste. Et la sanction doit s'appliquer. L'Écriture dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors comment concilier l'objectif que Dieu s'est fixé de sauver le pécheur et comment en même temps eh bien, manifester sa justice absolue? Comment? Eh bien, Dieu a voulu absoudre le coupable. Il a voulu pardonner le pécheur. Il a voulu faire grâce. Il a voulu éviter la condamnation que pourtant le pécheur mérite. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi Dieu a voulu que son Fils, son unique, Jésus, porte en lui-même la charge, le poids du péché des hommes. Le texte que je viens de citer nous dit, il a été fait péché, vous comprenez ça? Tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a d'infect, tout ce qu'il y a de corrompu, tout ce qu'il y a de perverti dans tes pensées, dans tes sentiments, dans tes paroles et dans tes actes et dans les miens, tout cela, Jésus l'a assumé à notre place. Il l'a pris à son compte, il s'en est chargé, il s'en est revêtu, il a endossé sur lui, il a pris sur lui la responsabilité de nos péchés et il a attiré ainsi sur lui-même, chargé de nos péchés qu'il était, le courroux de Dieu, le jugement de Dieu, le châtiment de Dieu est tombé sur lui à la place des pécheurs, de tous les pécheurs, même les plus mauvais. Même les plus infects, même les plus coupables. Parfois, des gens m'ont dit, « Monsieur, si vous saviez ce que j'ai fait, je ne veux pas savoir, ça n'est pas mon affaire. Si vous saviez jusqu'où j'ai été dans mes turpitudes, dans mon comportement misérable, ah, si vous saviez, croyez-vous, pensez-vous qu'un homme comme moi, comme une femme comme moi, après ce que j'ai fait, ce que j'ai été, croyez-vous vraiment que Dieu puisse me pardonner? Oui, mes amis, mille fois oui. » Parce que le prix de votre pardon a été payé. Alléluia. Jésus chargé de vos péchés. Jésus chargé de vos péchés. Jésus chargé de vos péchés a été châtié pour que vous, vous soyez épargnés. Le pardon de Dieu, je le disais ce matin à ceux qui étaient à Rumilly, ça n'est pas une lessive. Vous savez, lorsqu'on se tâche, ça m'arrive souvent, ça, moi. Le problème est vite réglé. Il suffit de mettre le vêtement dans la machine à laver. Hein? Un petit peu de lessive avant mon marché, puis l'affaire est réglée. Hein, mes amis, le sang de Jésus n'est pas une lessive. C'est la mort du Fils de Dieu. Vous comprenez? Moi, j'ai compris ça un jour. Hein? Lorsque j'étais enfant, que je lisais la Bible, parce que je la lis depuis fort longtemps, et que j'arrivais au récit de la crucifixion, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas que Jésus qui était si fort, si puissant, Jésus qui ressuscitait les morts, qui guérissait les malades, comment, pourquoi n'a-t-il pas utilisé sa puissance pour se dégager des mains de ses bourreaux? Pourquoi s'est-il laissé faire? Pourquoi s'est-il laissé arrêter, condamner, crucifier? Pourquoi a-t-il accepté de mourir de cette manière aussi horrible? Pourquoi? Et puis un jour mes yeux se sont ouverts, j'ai compris. Christ est mort pour moi. Christ est mort pour mes péchés. Christ est mort pour toutes les saletés, les misères qu'il y avait dans ma vie. C'était le seul moyen pour que j'échappe à la condamnation divine, à l'enfer, à ses tourments, et que je termine ma course un jour dans le ciel. Et vous savez quoi, ça? Il l'a fait pour chacun d'entre nous. Alléluia. De telle sorte qu'aujourd'hui, la réconciliation nous est offerte. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous avons quelque chose à faire, cependant, pour bénéficier de cette offre de réconciliation qui nous est faite en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons à reconnaître que ce sacrifice a été rendu nécessaire par nos péchés. Vous savez, l'humanisme nous dit que l'homme est quelqu'un de formidable, que l'être humain est vraiment extrêmement généreux, qu'il est bon par nature et que malheureusement c'est souvent la société qui l'a corrompu. Et alors on flatte l'ego de chacun, on veut faire croire aux gens qu'il y a en eux eh bien, toutes sortes de possibilités grandioses qui, s'ils laissent libre cours à leur personnalité, vont leur permettre de s'épanouir et devenir des gens formidables, merveilleux, magnifiques, extraordinaires. La Bible part d'un point tout à fait opposé. Elle nous dit, il n'y a rien, 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 rien de bon en toi. Tu n'es qu'un pécheur. Mais ce pécheur-là, Dieu l'aime tendrement. Et il veut le sauver. Et tu dois reconnaître, ami, pour être sauvé, que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as fait ou ce que tu feras. Quand bien même tu multiplierais des œuvres de piété ou des œuvres charitables, ce qui compte, c'est ce que Jésus a fait pour toi. Tu dois reconnaître qu'il a fait ça tout exprès pour toi. Mais il a fait ça également tout exprès pour moi. Il est mort pour mes péchés, à cause de mes péchés. Et je suis ainsi concerné par sa mort, responsable de sa mort. Alors, quelqu'un va me dire, attendez, prédicateur, vous me dites que je suis responsable de la mort de Jésus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand Jésus est mort, il y a 2000 ans, je n'étais même pas né. Comment puis-je être responsable de la mort d'un homme qui m'a précédé dans le temps? Vous savez, lorsque l'apôtre Pierre a prêché l'Évangile, on trouve ce récit dans le livre des Actes au chapitre 2, il y a là une grande foule. Des gens sont venus de tout le bassin méditerranéen à l'occasion de la fête de Pentecôte. Il y a des gens qui viennent de Rome, il y a des gens qui viennent d'Arabie, il y a des gens qui viennent d'Afrique du Nord, il y a des gens qui viennent d'Espagne, il y a des gens qui viennent de l'Orient extrême, etc., du Nord, du Sud, du Midi, de l'Est, de l'Ouest, de partout. Et Pierre, prêchant l'Évangile, leur dit ceci, « Vous avez crucifié le prince de la vie. » Et pourtant, ces gens-là, quand la crucifixion a eu lieu, n'étaient même pas présents physiquement. Mais pourtant, Pierre ose leur dire, « Vous avez crucifié le prince de la vie. » Même s'il n'était pas physiquement présent pour la plupart, mais il est vrai, néanmoins, que pour eux, et c'est vrai également pour nous, eh bien, nos péchés ont provoqué sa mort. C'est comme si nous l'avions personnellement crucifié, voyez-vous? Si vous refusez l'amour de Dieu, c'est comme ça que Dieu va apprécier les choses. Comme si vous aviez littéralement fait partie de ces bourreaux, en train avec le maillet d'enfoncer les clous dans ses poignets, dans ses mains. Il est mort par amour. Il a donné sa vie, comment dire ça? Par anticipation, par avance, pour les péchés que nous allions commettre lorsque nous viendrions au monde. Vous comprenez ça? Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Dieu a donc, je l'ai dit tout à l'heure, fait le premier pas, le plus grand, Jésus se dépouillant de sa gloire céleste. Un petit peu comme un roi qui se dépouillerait de sa couronne, de son vêtement royal, qui descendrait de son trône et qui irait vivre parmi ses plus humbles sujets. C'est ce que Jésus a fait. Il a paru comme un simple homme, donnant sa vie sur la croix. Ça, c'est le pas que Dieu a fait dans notre direction. Ça, c'est le premier pas et c'est Dieu qui l'a fait, je le répète. Il nous faut faire le second. Le second, c'est le prophète Ésaïe, qui en fait mention dans son livre, dans le chapitre 55 et le verset 6. Voici ce qui est dit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité, c'est-à-dire d'injustice, ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut retourner à Dieu. C'est le pas de la foi. C'est le pas de la conversion. Parce que la conversion, c'est ça. La conversion, ça n'est pas changer de religion, d'obédience, de chapelle, de cathédrale, de boutique religieuse. Non. La conversion, c'est retourner vers Dieu, revenir à Dieu. Voilà, j'ai vécu sans lui. Allez, c'est vrai, il faut que je l'admette. Je n'ai rien voulu savoir de ce qui le concernait. Dieu, il est quelque part perdu dans la stratosphère et puis moi, je suis sur la terre et je vis ma vie comme bon me semble. Et puis, en entendant l'Évangile, comme vous l'entendez cet après-midi, je comprends que les choses ne peuvent pas en rester là. Alors, ce Dieu que je fuyais, que je reniais, que je rejetais, que je méprisais, que j'oubliais, que je négligeais, maintenant je me tourne de son côté en lui disant, j'ai urgemment besoin de toi, Seigneur, de toi. Je viens à toi. C'est le pas de la foi, c'est le pas de la conversion, c'est le pas du renoncement à la pratique du mal. Parce que non seulement il faut reconnaître qu'il est mort pour nous, pour nos péchés, mais il faut faire ce choix, que désormais dans notre vie, ce soit sa volonté et non plus la nôtre qui prime. Et quand on se tourne vers Dieu, quand on aborde les choses de Dieu, on apprend, et la Bible nous y aide, qu'il y a bien des choses à l'égard desquelles il faut faire le ménage, là dans notre comportement quotidien, même au niveau de nos sentiments, même au niveau de nos pensées, à plus forte raison au niveau de nos propos, de nos paroles. Je me souviens de ce temps, de ces premiers jours de ma conversion. J'avais, voyez-vous, jusque-là un langage excessivement grossier, impur. Pourquoi ? Parce que la source à l'intérieur était polluée. Et Jésus dira avec vérité que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si mes propos étaient si ordiriés, c'est parce que mon cœur était sale. Mais Jésus a nettoyé mon cœur. Et parce qu'il a nettoyé mon cœur, il a aussi nettoyé ma bouche. Ça, c'est ce qu'il a fait pour moi. C'était mon problème à moi. Peut-être vous, il est d'une autre nature. Peut-être est-ce dans tout autre domaine que vous avez besoin que le ménage soit fait. Eh bien, tournez-vous vers Dieu. Et dites-lui, Seigneur, je voudrais que ma vie change. Je ne voudrais plus me comporter, me conduire comme je l'ai fait jusqu'à ce jour. S'il te plaît, viens dans ma vie et fais de moi en quelque sorte un être nouveau, et votre prière sera exaucée. Votre prière sera exaucée. Vous serez méconnaissable. Oui, je vous assure. Les gens qui vous auront côtoyé jusque-là vous diront, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme tu as changé. Physiquement, tu es toujours le même. Tu as toujours la même apparence. Mais ton comportement, eh bien, a complètement été révolutionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pourrez dire, c'est Jésus qui a changé mon cœur. C'est Jésus qui a changé ma vie. Ce pas de la foi, ce pas de la conversion, ce pas du renoncement à la pratique du mal, faites-le maintenant. Et soyez réconciliés avec le Père. Vous bénéficierez de sa présence dans votre cœur dès ici-bas. J'aime la présence de Dieu. J'aime goûter à la présence de Dieu. Vous savez, la présence de Dieu, c'est pas un truc qu'on imagine. C'est pas une certaine atmosphère, une certaine ambiance qui crée dans le cœur du croyant le sentiment de la réalité de la présence de Dieu. Non, c'est quelque chose que l'on expérimente en soi et que l'on peut vivre et que l'on vit d'ailleurs intensément, même quand on est tout seul, là, au fond de notre chambre ou de notre cuisine, peu importe, et qu'on fait appel à lui, sa présence. C'est un bien inestimable. Et cette présence, elle nous est assurée lorsque nous sommes réconciliés avec le Père assuré dès ici-bas, et un jour dans le ciel, il nous recevra et nous le verrons face à face. Mes amis, ce pas vers Dieu, faites-le, mais faites-le maintenant. Il y a trop de gens qui disent « Oh, doucement, il faut que je réfléchisse encore à l'affaire, je ne suis pas tout à fait décidé. » L'apôtre Paul a prêché un certain jour et au cours de sa prédication, il avait un roi devant lui, vous voyez, c'était un auditoire éminent. Cet homme s'est senti interpellé, alors il a voulu s'en sortir par une pirouette en disant à Paul, l'apôtre, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Il y a trop de gens qui disent « Ouais, bientôt !» Allez, je ne suis pas tout à fait décidé, mais ça va venir. Je sens que je suis dans la bonne direction. Pas tout de suite, pas aujourd'hui, pas maintenant. Bientôt. Et c'est toujours bientôt. Vous savez, comme le coiffeur qui a écrit sur sa vitrine, « Demain, on rase gratis. » Mais c'est toujours demain. Ne soyez pas de cela. Dites « Maintenant. Maintenant, je veux être réconcilié avec Dieu. » Et vous vous en trouverez. Bien, mes amis, vous partirez avec la paix de Dieu dans votre cœur, avec la certitude que quelque chose s'est passé et que vous vous êtes engagé dans un chemin nouveau. Nous vous en supplions. Si on pouvait le faire à votre place, on le ferait. Mais nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Que son nom soit béni. Prions-le, voulez-vous. Notre Père.